Je vais lire dans Philippiens 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 30. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation. Et j'ai confiance dans le Seigneur que moi aussi, je viendrai bientôt. J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat, que vous aviez envoyé afin de pourvoir à mes besoins. Il désirait vous revoir tous et se tourmentait parce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet, tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui. Et non seulement de lui, mais de moi, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je m'empresse donc de le renvoyer pour que vous puissiez vous réjouir de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Accueillez-le dans le Seigneur avec une joie sans réserve et ayez de l'estime pour de tels hommes. En effet, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Il a risqué sa vie afin de vous remplacer dans le service que vous ne pouviez pas me rendre.
Merci Genova. L'un des privilèges de faire partie d'une église dans une grande ville comme Paris, c'est d'avoir régulièrement l'occasion de connaître de nouvelles personnes. Et c'est vrai que dans une grande ville mondiale comme Paris, le mouvement est permanent. Ça fait partie de la réalité d'une ville comme Paris. Les gens viennent et repartent pour des périodes plus ou moins longues. Et ça apporte à une communauté comme la nôtre un vrai dynamisme. Maintenant, il faut reconnaître aussi le revers de la médaille, et je ne suis certainement pas le seul à en faire l'expérience. Faire partie d'une église comme celle-ci, c'est aussi être régulièrement amené à devoir dire au revoir à des gens qu'on a appris à aimer, avec qui parfois on n'avait pas au départ d'affinité naturelle, mais le fait de marcher ensemble avec le Seigneur, même pour des périodes relativement brèves, eh bien, ça crée des liens incomparables. Et c'est ce qui rend les au revoir plus difficile, mais c'est aussi ce qui nous permet de les vivre dans la paix, j'espère. Parce que les liens qui nous unissent en Jésus-Christ ne sont pas menacés par l'éloignement, ni même par les limites de notre fidélité ou de notre attention. Et en fait, c'est la vision chrétienne des relations humaines, ce sont des amitiés qui nous impactent, qui nous changent, qui réorientent notre vie. Des amitiés marquées par un amour qui va plus loin que l'amour naturel que des êtres humains peuvent avoir les uns pour les autres. Un amour qui tire ses racines dans celui incomparable à tout autre que Dieu lui-même a manifesté envers nous. Des relations, donc des amitiés transformées par l'Évangile. Et c'est ce qu'on voit dans ce texte lu par Genova il y a quelques instants. Alors cet extrait de la lettre de Paul à la petite église de la ville de Philippe, on revient donc à notre série sur les Philippiens qu'on avait mise en pause pendant deux semaines, cet extrait donc de cette lettre met en évidence un véritable réseau d'amitié, un réseau relationnel au service de Jésus-Christ. Et la question que nous allons nous poser en examinant cet extrait est celle-ci, qu'est-ce que ce texte nous dit de l'impact de l'Évangile sur nos relations ? Qu'est-ce que ce texte nous dit de l'impact de l'Évangile sur nos relations ? Et dans cet extrait, on voit que l'apôtre Paul va dresser successivement deux portraits de deux collaborateurs. D'abord celui de Timothée au verset 19 à 24 et ensuite celui d'Épaphrodite au verset 25 à 30. Et on va donc examiner ces deux portraits l'un après l'autre et puis on conclura brièvement en soulignant ce qu'ils ont en commun. Et donc je vous propose trois temps de réflexion. D'abord ce que j'appellerais une amitié de confiance concernant Timothée, puis une amitié de courage concernant Épaphrodite, et en conclusion, et vraiment très brièvement, deux priorités. Une amitié de confiance, donc, d'abord. Au verset 19, L'apôtre Paul, en prison, on l'a vu, et très vraisemblablement à Rome, annonce aux Philippiens que dès que possible, il leur enverra Timothée, son ami et son collaborateur, pour qu'ils puissent prendre de leurs nouvelles et qu'ils puissent rapporter ces nouvelles à l'apôtre Paul, qui, il ne le cache pas, espère être encouragé par les nouvelles qu'il recevra. Et nul doute que la visite de Timothée à Philippe sera aussi l'occasion d'enseigner et d'encourager les chrétiens de cette ville. Alors juste un petit rappel sur Timothée. Ce jeune, ou relativement jeune, on ne sait pas exactement quel âge il avait, mais en tout cas plus jeune que Paul, collaborateur de l'apôtre, est souvent mentionné dans le Nouveau Testament. Il est mentionné dans le livre des Actes, il est mentionné dans plusieurs des lettres de Paul, il y a même deux lettres qui ont été écrites par Paul à Timothée, et puis il est même mentionné à la fin de la lettre aux Hébreux. Donc il est souvent mentionné et il y est décrit à plusieurs reprises comme le fils spirituel de l'apôtre Paul. Et d'ailleurs c'est le cas dans ce texte, au verset 22, on voit que c'est exactement dans ces termes que Paul le décrit. Il dit « Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'évangile avec moi comme un enfant avec son père. » La relation entre les deux hommes était si privilégiée que Paul régulièrement utilise cette image filiale pour parler de cette relation. Et c'est une image riche. Je dois reconnaître que c'est une image qui me parle. En ce moment, l'un de mes moments préférés de la journée, en période scolaire, c'est le matin quand j'amène ma fille aînée, Livia, à l'école. Et c'est l'occasion, elle a 5 ans et demi maintenant, c'est l'occasion de discuter un petit peu. Et elle a l'âge où on peut commencer à parler un petit peu de choses sérieuses. Alors, pas seulement de choses sérieuses, hein, je vous rassure, mais un petit peu de choses sérieuses. Et il y a une complicité qui se crée. Et je commence à prendre conscience de ce que je savais déjà en théorie, mais je commence à voir à quel point, dans cette relation filiale entre un parent et un enfant, il y a un enjeu immense. C'est auprès de ses parents qu'un enfant apprend la vie, pour le meilleur ou pour le pire. Et je précise qu'on peut dire cela non seulement des relations filiales au sens strict, mais aussi lorsqu'une relation a pris une dimension filiale symbolique, comme c'est le cas pour Paul et pour Timothée. Timothée a appris la vie auprès de Paul, et plus spécifiquement, il a appris la vie avec Dieu. Autrement dit, la vie dans ce qu'elle a de plus important. Donc les deux hommes ont passé du temps ensemble, avec une même vision, un même objectif, être au service de Jésus-Christ, en annonçant la bonne nouvelle, en enseignant et encourageant ceux qui s'étaient tournés vers Jésus. Et de ce service commun est née une profonde confiance. Alors, au cas où certains se demanderaient si Paul est un peu trop naïf à croire que les relations entre chrétiens sont toujours faites uniquement de confiance absolue, on voit bien que ce n'est pas le cas. Au verset 20 et 21, Paul écrit « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » C'est assez sévère comme propos. Et là, dans le contexte, il est clair que l'apôtre Paul parle de chrétiens, de frères et sœurs dans la foi, avec qui, manifestement, eh bien, il n'y a pas la même confiance qu'avec Timothée. Donc les relations chrétiennes ne sont pas toujours de cette qualité-là, malheureusement. Mais précisément, cela confirme la valeur de relations ancrées dans l'Évangile, dans la bonne nouvelle d'une pleine et parfaite réconciliation avec Dieu. Une pleine et parfaite réconciliation avec Dieu qui devrait, logiquement, qui devrait enlever tout motif de conflit ou de rivalité entre nous, entre les hommes. Et on arrive là au cœur de la question. Si les chrétiens placent la confiance en Jésus au cœur de leurs relations les uns avec les autres, eh bien comment cette confiance pourrait-elle venir à manquer? Mais revenons un instant au projet de Paul. Envoyer Timothée à Philippe. Alors Philippe, c'était une ville dans le nord-est de la Grèce actuelle. Et rappelons, je l'ai déjà dit, qu'à l'époque, voyager, c'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas EasyJet, il n'y avait pas même Eurolines, c'était très compliqué. Et voyager d'Italie jusqu'en Grèce, ben, ça prenait des semaines. Et c'était dangereux aussi, comme on le verra dans la suite du texte. Et il faut noter aussi que l'apôtre Paul est isolé, il est en prison. Et nul doute que la présence de Timothée auprès de lui, c'était précieux. D'ailleurs, Timothée, il est probable qu'il faisait partie de ceux qui apportaient à Paul des vivres, puisque dans les prisons, dans l'Empire romain, les prisonniers devaient compter sur leur réseau personnel pour pouvoir être entretenus, pour pouvoir se nourrir. Mais malgré cela, Paul est prêt à laisser partir Timothée pour rendre visite aux Philippiens. Et il le fera dès que, verset 23, il sera au clair sur sa situation. Autrement dit, dès que l'issue de son procès sera claire, pour que Timothée puisse informer les Philippiens en connaissance de cause et leur dire ce qu'il s'est passé. Et on le voit, Paul est très confiant, au fond, il l'a déjà dit d'ailleurs dans cette lettre, il est confiant dans le Seigneur, dit-il, de l'issue de son procès. Mais Paul a aussi confiance en Timothée. Il sait, verset 22, qu'il a fait ses preuves. Et plus encore, Paul a confiance en Dieu, qui est le garant de cette amitié. Un Dieu qui a prouvé son amour en donnant ce qu'il a de plus cher, son Fils Jésus-Christ, pour venir nous délivrer de notre égarement. On l'a rappelé en prenant la scène tout à l'heure. Un Dieu qui a été prêt à s'abaisser jusqu'à la honte de la croix pour se lier à nous et nous lier à lui pour toujours. Il n'y a pas de fondement plus solide pour une relation humaine que l'Évangile lui-même. Une bonne nouvelle qui nous permet de vivre nos relations dans la paix et la confiance de savoir qu'on est porté par quelqu'un qui nous dépasse et qui tient nos vies entre ses mains. Et la confiance qui découle de cela est d'une valeur incalculable. Parce qu'on n'a rien à prouver en Jésus-Christ. On n'a rien à prouver, on n'a rien à gagner. Et au fond, on n'a rien à craindre de l'avenir. Alors il ne s'agit pas de dire que l'avenir sera forcément facile. Mais on n'a rien à craindre de l'avenir, parce qu'en Jésus-Christ, nous avons pour toujours l'assurance du pardon, de l'amour, de la fidélité de notre Créateur. Et c'est pourquoi Paul peut vivre cette amitié avec Timothée sans crainte, sans exclusivité malsaine, sans la mettre au service de son propre intérêt, dans la confiance qu'elle tiendra bon, parce qu'elle est ancrée dans quelque chose de plus grand qu'elle. Et la question nous est posée à tous. Est-ce que nos amitiés, et ici je pense en particulier à nos amitiés entre frères et sœurs dans la foi, pour nous qui sommes chrétiens, est-ce que ces amitiés sont ancrées d'abord dans nos affinités naturelles ou dans les convenances sociales, ou bien est-ce qu'elles sont ancrées d'abord dans la confiance que nous avons en Jésus-Christ? Et peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce qu'il faut repenser notre manière de vivre certaines de nos amitiés pour nous assurer que nous replaçons Jésus-Christ au centre, pour nous assurer que notre relation ne repose pas d'abord sur l'adéquation de nos tempéraments ou de nos affinités, mais sur une espérance partagée qui change la vie dans les petites choses comme dans les grandes choses. Il n'y a pas plus riche que des amitiés fondées sur la confiance que nous pouvons avoir grâce à Jésus. Maintenant, on en arrive au second portrait que Paul nous donne et qui va mettre en évidence une autre qualité d'une amitié transformée par l'Évangile, ce que j'appellerais une amitié de courage. Venons-en donc à notre ami Épaphrodite. Alors, il semblerait que le prénom n'ait pas eu autant de succès que Timothée au fil de l'histoire. Et quand, avec Talia, mon épouse, on a réfléchi récemment à un prénom pour notre fils, Épaphrodite n'était pas sur la shortlist. Mais l'homme est d'une grande valeur pour l'apôtre Paul, qui le présente en termes très affectueux. Verset 25, « Mon frère Épaphrodite, mon collaborateur et mon compagnon de combat. » Alors, il est probable que Paul ne connaissait pas Épaphrodite aussi bien qu'il connaissait Timothée. On n'est pas sûr, mais Timothée, vraiment, il y avait une relation de mentor à fils spirituel et ils œuvraient ensemble depuis des années et des années. Là encore, cela dit, avec Épaphrodite, il y avait un lien entre les deux hommes qui était ancré dans la bonne nouvelle de Jésus, qui était l'ADN de leur amitié. En fait, et vous l'aurez compris certainement en lisant, en écoutant le texte, Épaphrodite était l'envoyé de l'église de Philippe et vraisemblablement l'un des responsables de cette communauté. Il avait été envoyé à Rome donc pour apporter à Paul un don financier pour pouvoir pourvoir à ses besoins en prison. Et à la fin de la lettre, d'ailleurs, Paul va remercier très chaleureusement les Philippiens pour ce don. Mais aussi, plus largement, Épaphrodite a apporté à Paul des nouvelles de l'église de Philippe. Par exemple, quand un peu plus loin dans la lettre, il sera question de tension entre deux femmes de l'Église, Évodie et Saint-Iche, eh bien, nul doute que c'est Épaphrodite qui en a parlé à Paul. Il lui a dit, tu sais, entre Évodie et Saint-Iche, c'est tendu en ce moment, il y a de l'eau dans le gaz, etc. Et c'est comme ça que Paul l'a su. Et c'est Épaphrodite qui est retourné ensuite à Philippe en emportant avec lui la lettre de Paul. Mais la manière dont Paul en parle laisse entendre que ce retour plus ou moins immédiat à Philippe n'était pas prévu à l'origine. n'était pas ce qui avait été prévu initialement. Le verset 25 laisse assez clairement entendre qu'Épaphrodite devait rester normalement quelque temps auprès de Paul. Peut-être pour l'encourager, peut-être pour continuer à subvenir à ses besoins, peut-être pour participer à l'annonce de l'évangile à Rome, qui sait. Mais Paul explique que le programme a changé, verset 25. « J'ai cependant estimé nécessaire de vous renvoyer, mon frère Épaphrodite. » Pourquoi cette décision ? Bien, Paul va l'expliquer juste après au verset 26. « Il désirait vous revoir tous et se tourmenter parce que vous aviez appris sa maladie. » Il désirait vous revoir. Alors peut-être qu'Épaphrodite avait un peu le mal du pays. Pas facile de monter à la capitale quand on est un provincial, n'est-ce pas ? Le bruit, la pollution, il y a des gens partout, la circulation est un vrai cauchemar, les gens ne sont pas aimables. Mais surtout, et plus sérieusement, Épaphrodite se tourmentait parce que les Philippiens avaient appris sa maladie. Et là, c'est frappant, parce qu'Épaphrodite semble beaucoup plus inquiet de la réaction des Philippiens en apprenant sa maladie que de sa maladie elle-même. Alors, il est vrai qu'il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, là encore. Quand on tombait malade, même des virus qui aujourd'hui ne nous inquiéteraient pas du tout, ou très peu, eh bien, la question de la mort, elle se posait très vite. Est-ce qu'on allait survivre à la maladie ? Récemment, ma fille cadette a eu une otite, et voilà, on a pu traiter ça très vite et très facilement avec des antibiotiques. Que se serait-il passé sans ce traitement ? Que serait-il passé ? Vraisemblablement, son corps aurait surmonté cette maladie. On va demander à Hervé, qui est pédiatre, mais qui sait ? À l'époque, la mort n'était jamais loin. Sur le chemin de Philippe à Rome, Épaphrodite est tombé malade, gravement malade, et Paul le souligne au verset 27, il est passé tout près de la mort. Alors ce qui semble s'être passé, en lisant un peu entre les lignes, c'est qu'un des compagnons de voyage d'Épaphrodite, on ne voyageait pas seul à l'époque, on partait à plusieurs, un de ses compagnons de voyage est alors retourné à Philippe pour prévenir la petite communauté qu'Épaphrodite était tombé malade, et sans aucun doute pour leur demander de prier. Mais Épaphrodite a décidé de continuer la route. Alors, est-ce qu'il a attendu d'être un peu mieux ou pas ? On ne sait pas, on n'a pas ces détails. Mais c'est ce qui explique cette remarque de Paul au verset 30. Il a risqué sa vie en maintenant ce voyage. Et pendant ce temps-là, et ça, on n'en prend pas forcément conscience, pendant ce temps-là, des jours et des semaines ont passé et les Philippiens n'avaient aucun moyen de savoir ce qui était arrivé à Épaphrodite. Est-ce qu'il était guéri ? Est-ce qu'il était malade encore ? Est-ce qu'il était mort ? Et on peut aussi même se demander si à Philippe, Épaphrodite avait une femme, des enfants. On n'en sait rien. Mais tout cela fait qu'on comprend qu'il était tourmenté de ne pas pouvoir rassurer les siens. Et c'est pour cela que Paul n'a pas souhaité le retenir à Rome. Donc Épaphrodite va retourner à Philippe sans tarder et apporter avec lui cette lettre de Paul que nous lisons ensemble depuis plusieurs semaines. Et d'ailleurs, je trouve que ça apporte un éclairage très touchant à cette lettre aux Philippiens, de savoir que quand les Philippiens l'ont découvert et l'ont lu cette lettre, eh bien, ils venaient de retrouver Épaphrodite, sain et sauf, après avoir eu tellement peur pour lui. Mais au-delà, ce qui doit nous toucher ici est de voir qu'Épaphrodite a été prêt à entreprendre ce voyage long et dangereux et à le poursuivre pour pouvoir encourager l'apôtre Paul, lui apporter un don matériel précieux, peut-être même nécessaire à sa survie, et pour pouvoir maintenir, malgré l'emprisonnement de Paul, ce partenariat pour l'Évangile dont il est question à plusieurs reprises dans cette lettre aux Philippiens. Et c'est un deuxième exemple d'amitié transformée par l'Évangile que nous retiendrons. Le courage et l'abnégation d'une amitié qui ne compte pas, qui donne et se donne, sachant que quoi qu'il arrive, si nous nous attachons à Jésus-Christ et à son œuvre, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes aimés et gardés par le Dieu vivant. Alors puissent nos relations, nos amitiés être portées elles aussi par ce courage. Un courage qui peut se décliner de multiples manières, comme Épaphrodite, le courage de se donner pour l'autre, sans compter son temps et son énergie, la prise de risque. C'est un défi pour nous tous. C'est un défi pour moi, certainement. Maintenant, si on sort un peu du contexte immédiat de ce texte, et si j'ose un peu extrapoler, je pense que c'est légitime de le faire, ce courage en Jésus-Christ, c'est aussi le courage de dire ce qui est parfois difficile à dire, comme l'apôtre Paul d'ailleurs le fait régulièrement dans ses lettres, le courage de demander pardon. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce soir qui a besoin de demander pardon à quelqu'un, dans cette salle ou ailleurs, ou de dire au contraire ce qui nous a offensés, dans un souci de réconciliation. Le courage de se remettre en question, d'oser apparaître vulnérable. Le courage de renoncer à tout faux-semblant parce que nous n'avons rien à craindre en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu. Nous n'avons plus rien à gagner. Nous n'avons plus rien à prouver. Nous n'avons plus à justifier la valeur de notre personne ou de notre existence. Parce que tout cela, Jésus l'a fait pour nous à la croix. Dieu nous appelle à vivre des relations transformées par la confiance et par le courage qui nous viennent de l'Évangile. Et je conclurai en soulignant deux priorités qui sont mises en évidence dans ce réseau d'amitié que nous découvrons dans ce texte. Très brièvement, donc, pour conclure, deux priorités. La première, c'est tout simplement la priorité de l'autre. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de préparation au mariage que j'ai eu la joie d'animer. Et l'un des points que nous sommes régulièrement appelés à souligner, c'est la priorité de l'autre dans le mariage. Cette recherche inlassable du bien du conjoint, même quand ça nous coûte, même quand ça nous amène à des actions ou démarches que, idéalement, nous aurions préféré ne pas avoir à faire. Et j'ai moi-même encore beaucoup à apprendre dans ce domaine. Mais ce qui est vrai dans le mariage est vrai aussi dans toute amitié ancrée en Jésus-Christ. Rechercher inlassablement le bien de l'autre, même quand ça nous coûte. Et on le voit à plusieurs reprises dans ce texte. Paul est en prison. Et pourtant, il a pris à cœur, verset 20, la situation des Philippiens. Au point qu'il est prêt à leur envoyer son ami et collaborateur le plus proche, Timothée. De même, Paul aurait aimé sans doute garder Épaphrodite auprès de lui plus longtemps. Et on le voit dans la manière dont il le dit. « J'ai estimé néanmoins nécessaire de vous le renvoyer. » Mais il pense aux Philippiens qui s'inquiètent. Au point que le fait de savoir les Philippiens rassurés le rendra, verset 28, moins triste d'avoir laissé partir Épaphrodite. Et Épaphrodite, de son côté, aurait pu rebrousser chemin alors qu'il était malade. Mais il pense à l'apôtre Paul qui est en prison, qui a besoin d'être aidé matériellement et encouragé. Que se passerait-il si dans nos amitiés, chrétiennes d'abord, mais par extension, nos relations, nos amitiés plus largement, nous recherchions inlassablement le bien de l'autre? Et en le disant, je suis conscient de ce que la barre est haute quand on dit ça. Mais quel témoignage cela serait à l'égard, justement, de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur? Or, si nous pouvons rechercher le bien de l'autre sans craindre toujours pour nos intérêts, c'est encore une fois parce que nous sommes portés par l'amour d'un Dieu qui a tout donné pour nous, d'un Sauveur qui a connu la mort pour nous donner la vie. Et c'est la seconde priorité qui est en évidence dans ce texte, la priorité de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui préoccupe tant Paul chez les Philippiens? Est-ce que c'est leur situation au travail? Est-ce que c'est leur vie familiale? Certainement que ça le préoccupait dans une certaine mesure, mais bien plus que cela, leur marche avec Dieu. La confiance entre lui et Timothée est née aussi de leur service commun pour Jésus-Christ. Le courage d'Épaphrodite, il est motivé par sa conviction que le ministère de l'apôtre Paul comporte un enjeu essentiel. La générosité des Philippiens qui envoient un don à Paul met en évidence qu'ils ont compris la valeur inestimable de proclamer le message de Jésus-Christ. Et si Paul envoie Timothée à Philippe, c'est parce que, contrairement à d'autres, verset 20, en faisant cela, il ne cherche pas ses propres intérêts, mais ceux de Jésus-Christ. Et en fait, chercher les intérêts de Jésus-Christ et chercher les intérêts des autres, ça se rejoint. Il y a une harmonie très naturelle entre les intérêts des autres et les intérêts de Jésus-Christ. Parce que l'amour de Christ nous appelle, à la suite de notre Seigneur, à donner notre vie pour nos amis. Donner notre vie, ça peut parfois être au sens le plus strict, mais je crois que surtout c'est au sens plus large d'être disponibles les uns pour les autres et d'accorder la priorité à leur intérêt. Le défi est immense, et peut-être que nous sommes très loin du compte, je crois que c'est mon cas. Mais il me semble que ce qui est décisif d'abord, c'est d'aspirer à cette double priorité, sincèrement, de vouloir accorder la priorité aux autres et à Dieu, et de commencer pas à pas à vivre cela. Et ce qui est merveilleux, c'est de savoir que nous pouvons compter au quotidien sur les ressources inépuisables de grâce que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Nous avons tout reçu, Ça, c'est une logique qu'on trouve très souvent dans le Nouveau Testament, en particulier dans les lettres de Paul. Nous avons tout reçu, toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, Éphésiens 1. Tout reçu. Alors nous pouvons ne plus craindre, n'avons plus rien à prouver. Nous pouvons être disponibles, nous pouvons tout donner. Que Dieu nous donne de vivre cette nouvelle réalité dans nos relations, d'être des amis les uns pour les autres, des amis authentiques les uns pour les autres, malgré nos différences d'arrière-plan, d'âge, d'origine. Être des amis authentiques, qui reflètent au moins un peu notre ami fidèle et tendre, comme dit le cantique, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.